Voilà, on va reprendre. Donc on a vu ce matin un petit peu les deux théories, les grandes théories qui s'affrontent entre l'évolutionnisme et le créationnisme. On va revenir en détail donc sur le récit de la création et on s'aperçoit en lisant la Bible qu'il y a deux récits en fait de la création qui sont complémentaires, mais qui sont différents. On a lu un premier récit ce matin, ceux qui étaient là, donc on a commencé dans Genèse chapitre 1, du verset 1 à Genèse 2, verset 3, c'est le premier récit de la création. On a vu 6 jours et le 7e, le repos. Maintenant, on va lire le deuxième récit de la création qui se situe dans Genèse chapitre 2, verset 4. Je vais demander à Elsa si tu veux le lire. Genèse chapitre 2, verset 4. Et vous allez voir des différences avec le premier récit, les 6 jours de la création. Alors, on va lire du verset 4 jusqu'au verset 25.
Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur, on y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon, c'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Idekel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les oiseaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte.
Merci. Voilà, c'est le deuxième récit donc, qui présente d'ailleurs les choses sous un autre angle que le premier récit qu'on a vu, les fameux 6 jours de la création plus le 7e du repos. Et maintenant, c'est un récit plus détaillé concernant particulièrement la création de l'homme. On va voir qu'il va être en 2 temps, l'homme en premier, les animaux et la femme dans un 2e temps. Donc, les 2 premiers chapitres de la Genèse présentent 2 récits différents. Déjà, on se rend compte, il y a certaines différences, on va les mettre en valeur tout à l'heure. Dans le premier, on peut dire que Moïse donne les grandes étapes de la création d'une manière très générale, en partant des grands espaces, des contenus qu'il va y avoir dans ces espaces. Donc, il parle de l'immensité de l'univers. Et l'homme vient clôturer cette grande fresque des 6 jours de la création, comme le sommet de la création. Dans le 2e récit qu'on vient de lire, l'accent est davantage mis sur l'homme et la femme, qui sont le point central de ce récit. D'abord, le détail de la formation Adam à partir de la poussière. On n'avait pas ce détail dans le premier récit. Ensuite, l'indication que Dieu lui donne des responsabilités par rapport au jardin dans lequel il l'a placé. Et enfin, la création de la femme qui est tirée d'une côte d'Adam. Alors, dans la diapo suivante, est-ce que tu peux appuyer sur le bouton ? Je compare les 2 récits. Le premier récit, vous retrouvez les six jours, lumière, ténèbres. On a dit que ces six jours sont divisés en deux groupes de trois. Les trois premiers, c'est lumière, ténèbres, eau et ciel, terre et végétation. Mais ce sont des espaces, il n'y a rien dedans. Dans un deuxième temps, les trois jours suivants, soleil et lune, poissons, oiseaux, animaux, hommes et femmes vont remplir les trois premiers jours. Le septième étant à part, c'est le repos de Dieu. Voilà, ça c'est le premier récit de la création, résumé. Mettons maintenant, si tu cliques, sur le deuxième récit. Le deuxième récit parle de la création de la terre et des cieux, ensuite création de l'homme à partir de la poussière de la terre, ensuite la végétation vient dans un deuxième temps, après la création de l'homme, troisième élément, les animaux, quatrième élément, la femme. Déjà, on voit des différences dans la présentation du premier récit et la présentation du deuxième récit. Plusieurs explications ont été apportées pour expliquer ces différences qui sont une complémentarité en fait d'un récit par rapport à l'autre. Première explication, le premier récit est un aperçu général de la création, tandis que le deuxième récit est un point capital, c'est-à-dire l'origine de l'homme. On n'est pas dans le même objectif. D'ailleurs, si on n'avait que le premier récit, on n'aurait pas l'indication de la différence de création entre Adam et Ève. On pourrait croire que les deux ont lieu en même temps dans le premier récit, tandis que là, dans le deuxième, on a un détail entre la formation d'Adam en premier et ensuite la formation d'Ève dans un deuxième temps. Deuxième explication, le premier récit développe un aspect général vu du ciel, tandis que le premier récit, c'est le premier récit qui développe un aspect général vu du ciel. Le second, c'est un aspect particulier vu en Éden. On est dans le jardin d'Éden, c'est donc localisé, c'est donc en fait une petite partie de la création. Et pour expliquer les différences de chronologie, il y a plusieurs solutions possibles. D'abord, ce qu'on peut comprendre, c'est que le second récit n'est pas chronologique, contrairement au premier, car le second se focalise sur une création en Éden, c'est bien précisé, dans le jardin d'Éden, qui est indépendante de la création globale. Et d'autre part, il est possible de traduire Genèse chapitre 2, verset 19. Alors regardons-le. Genèse 2, 19. « L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs. » On peut le traduire au plus que parfait, ce qui donne « L'Éternel Dieu avait formé de la terre tous les animaux des champs. » Par exemple, c'est traduit comme ça. Dans la Bible du Semeur, si vous avez cette version, vous verrez qu'ils ont traduit au plus que parfait. Sous-entendu, les animaux arrivent après l'homme, mais ils avaient été créés avant. Et c'est possible en hébreu de traduire au plus que parfait ce passage. Dans ce cas, les animaux ont bien été formés avant l'homme, ce qui semble logique par rapport au premier récit. Donc effectivement, même si les animaux apparaissent dans un deuxième temps, le texte, en tout cas dans sa traduction, comme la Bible du Semeur le fait, peut signifier l'Éternel Dieu, je vous lis la version Semeur, l'Éternel Dieu qui avait façonné du sol tous les animaux du champ, les oiseaux du ciel, les fit venir pour l'homme. Donc il les avait façonnés avant de créer l'homme. Ça c'est un petit détail qu'on peut souligner. Alors voici donc les deux récits. L'un est large grand angle, c'est le premier récit. Le deuxième est plus focalisé sur la création d'Adam et Ève. On va passer à l'image suivante. Maintenant, on va parler des six jours. Six jours de la création. C'est donc le premier récit. Le sujet des six jours de la création est souvent un débat de controverse. D'abord, est-ce qu'il s'agit des jours de 24 heures? Parce que le mot « jour », ça signifie en général, quand on dit « j'ai passé un jour de voyage », ça signifie toute une journée, environ 24 heures. Le mot « jour » en hébreu a-t-il un sens plus large? Est-ce que c'est des jours de 24 heures ou est-ce qu'on peut estimer que ce sont des périodes plus ou moins longues de milliers ou de millions d'années? Voyons les principales solutions avancées. Alors, je commence par l'interprétation littérale, qui est quand même la plus ancienne, et celle que les croyants globalement ont cru jusqu'à une époque récente des découvertes scientifiques qui ont fait reculer l'âge de la Terre à 4,5 milliards d'années. Donc la plupart des croyants jusqu'à une époque moderne, à travers l'histoire, ont considéré que le sens était littéral, c'est-à-dire des jours de 24 heures, création en 6 jours. Le récit est interprété dans le sens le plus simple, c'est-à-dire tel que Moïse l'a compris. Évidemment, Moïse n'avait pas les données scientifiques que nous avons aujourd'hui, Donc quand il a cette révélation de jour, pour lui, tout simplement, un jour, c'est un jour de 24 heures, ça signifie une journée. Les expressions soir et matin, alors vous les avez repérées par exemple au chapitre 1 et au verset 5. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. En fait, on pourrait dire ce fut la fin d'un temps et le début d'un autre. Le soir et le matin désignent deux sections, la fin et le début. Donc parler de soir et de matin, c'est assez habituel pour parler des jours. Et puis on a un autre élément. Alors est-ce que tu peux lire Exode chapitre 20 verset 11 Elsa, Exode chapitre 20 verset 11. Dans les 10 commandements, il est question des 6 jours de la création.
Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié.
Donc Moïse utilise ce récit de la création pour affirmer qu'il a fallu 6 jours à Dieu pour créer les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve. Sous-entendu, le 7e jour était un jour de repos. En général, quand on associe le mot jour à un adjectif numéral comme un jour, deux jours, trois jours, ça évoque plus une période d'une journée de 24 heures qu'une longue période indéterminée. Donc, voilà l'interprétation littérale est celle-ci. Le récit est à prendre tel qu'il est écrit, avec des journées de 24 heures qui décrit la manière dont Dieu a créé la terre. C'est peut-être ce qui ressort le plus facilement du texte. Et c'est là-dessus que s'appuient ceux qui croient que Dieu a fait la création il y a entre 10 et 20 000 ans. Vous vous rappelez, ce matin, on a parlé de ceux qui croient que, en fait, les datations carbone 14 sont fausses, que le déluge a changé les données pour les fossiles. Et donc, il s'appuie sur ces textes pour dire, voyez, la création est forcément beaucoup plus récente, 10 à 20 000 ans, contrairement aux 4,5 milliards d'années avancées par la science. Donc, Adam serait situé entre 4 000, 5 000 avant Jésus-Christ. Et puis, il y a un verset de Jésus, est-ce qu'on peut lire Marc chapitre 10, verset 6 ? Toujours dans la Bible. Marc chapitre 10 et au verset 6.
Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair.
Alors Jésus, quand il parle de la création, il parle du commencement de la création, et il relie l'homme et la femme au commencement de la création, donc un temps assez bref. Donc, le gros argument de ces personnes qui défendent le texte littéral, c'est le déluge de Noé qui explique les phénomènes géologiques, donc les fossiles. Et donc, tout serait faussé par cela. Quelles sont les objections à cette interprétation ? D'abord, la première difficulté, parce que les jours, habituellement, sont reliés au soleil. Or, le soleil n'est créé qu'au 4e jour. Donc, les 3 premiers jours, si vous voulez, sont forcément déconnectés des jours solaires. Parce que les jours solaires, c'est ça, les jours de 24 heures, ce sont des jours solaires. Or, les jours solaires n'apparaissent qu'au 4e jour. Réponse des tenants de cette interprétation littérale, c'est que Dieu n'a pas besoin du soleil, sa gloire resplendit, la lumière est présente sans le soleil. Mais comment expliquer des périodes solaires avant la création du soleil? Ça, c'est une première difficulté. Alors, concernant l'extraordinaire jeunesse de la Terre, ils disent que Dieu peut créer instantanément quelque chose qui a l'air ancien. Ça, c'est un argument. On a vu que c'est possible. Mais il faut aussi beaucoup de temps pour que les lumières qui parviennent, soit du soleil ou des étoiles lointaines, arrivent jusqu'à nous. Ça se passe en centaines d'années-lumière ou milliers, millions d'années-lumière. Et donc, tout cela nécessite beaucoup de temps. Autre argument qui va à l'encontre de cette thèse littérale, c'est qu'il y a beaucoup de fossiles qui ont été retrouvés, mais beaucoup, qui donnent des indices en faveur d'une terre ancienne. Alors, la question qu'on se pose, pourquoi Dieu aurait-il laissé autant d'indices pour une terre très ancienne, alors qu'elle serait finalement très récente? Ça paraît un petit peu contradictoire. Voilà pour la première interprétation des 6 jours. Donc ceux qui disent, eh bien voilà, ce sont 6 jours de 24 heures. Elle a quelques difficultés néanmoins. Deuxième interprétation, c'est ce qu'on appelle la restitution. Plusieurs m'en ont parlé tout à l'heure, entre les pauses. Ça vient de... voilà, la numéro 2, c'est l'interprétation de la restitution. On l'appelle aussi la gap théorie ou la théorie de l'intervalle. Et, alors, reprenez Genèse chapitre 1, verset 1, je vais vous expliquer cette théorie. Il y aurait plusieurs milliards d'années, en fait, entre Genèse chapitre 1, verset 1 et le verset 3, où Moïse reprend le récit d'une création en 6 jours. Donc, les milliards d'années, en fait, seraient situés dans l'intervalle de ces deux versets. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre, alors là, il y a une sorte d'intervalle de plusieurs milliards d'années. La terre était informe et vide, il y avait des abîmes à la surface. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On m'a posé la question, qu'est-ce que c'est que l'abîme ici? Mais ce n'est pas l'abîme qui est mentionné dans l'Apocalypse. Ça fait référence, ce verset 2, à un état de désordre et que Dieu va mettre en ordre dans les versets suivants. Donc, on passe du désordre à l'ordre. Donc, les milliards d'années que la science a trouvées seraient situées dans une première création qui aurait eu lieu, en fait, entre le verset 1 et le verset 2 de Genèse 1. C'est Cyrus Scofield. Je ne sais pas si vous connaissez cette Bible qu'on appelle la Bible annotée Scofield. Scofield, dans les premières éditions de sa Bible annotée, avait mentionné cette théorie. Je crois qu'elle n'y est plus dans les dernières éditions, mais c'est lui qui, le premier, a défendu cette thèse, en fait, qu'on appelle de la restitution. Donc Dieu aurait fait une première création dont on a perdu la trace. Entre deux, il y aurait eu la révolte de Satan dans les cieux, puisque comment est-ce que Satan est venu? En fait, Dieu a créé tous les anges bons, mais il y en a un qui s'appelait Lucifer, porteur de lumière, qui a voulu se faire l'égal de Dieu et qui est devenu Satan. En devenant Satan, il a entraîné avec lui d'autres anges qui sont devenus des mauvais esprits ou des démons. Cette chute angélique est située ici, entre Genèse chapitre 1, verset 1 et Genèse chapitre 1, verset 2. Et c'est là qu'ils traduisent, au lieu de dire « la terre était », »,« la terre devint informe et vide ». La terre devint sous l'influence de cette chute satanique qui aurait pousser la terre dans le chaos. Vous avez cette expression d'ailleurs, un petit détail, au verset 2. La terre était informe et vide. C'est en hébreu, c'est tohu-bohu. La terre était un tohu-bohu, un désordre. Et cette expression tohu-bohu, liée aux ténèbres, est souvent associé au jugement. Alors, on va lire un autre verset dans Ésaïe 34, verset 11. Alors, est-ce que tu vas le trouver? Ésaïe 34, verset 11.
Le pélican et le hérisson la posséderont, la chouette et le corbeau l'habiteront. On y étendra le cordeau de la désolation et le niveau de la destruction.
Désolation et destruction, c'est le même terme ici, c'est tohu et bohu. Désolation et destruction, ici on est dans un climat de jugement. Vous voyez ici c'est traduit informe et vide. Déjà c'est les mêmes mots qui ne sont pas traduits de la même manière. Informe et vide, désolation, destruction. Et on va lire un dernier verset dans Jérémie 4, 23 qui reprend la même expression associée à un jugement de Dieu. Jérémie 4, 23.
Je regarde la terre, et voici, elle est informe et vide, les cieux et leur lumière a disparu.
Voilà. On est dans un contexte aussi du jugement. Et là, on retrouve la même expression, informe et vide, tohu et bohu. Donc, cette expression revient trois fois dans la Bible. Une fois ici en Genèse, une fois en Ésaïe, une fois en Jérémie. Alors, ceux qui défendent cette thèse expliquent que, voilà, il y a ici un tohu-bohu qui s'explique par la chute de Satan sur la terre avec ses gens et qui a créé le chaos. Donc, à partir du verset 3, Dieu va refaire une nouvelle création et celle-ci va être en 6 jours. Les 6 jours où il va tout remettre en ordre, ce que Satan a mis en désordre. Donc, à partir de Genèse 1-3, on assiste à une seconde création. En 6 jours de 24 heures, le monde a été rétabli après l'époque glaciaire. Alors, tous les dinosaures, les fossiles, les éléments très anciens, il les situe dans cette partie-là entre Genèse 1-1 et Genèse 1-2. Ce qui fait que ces milliards d'années, en fait, ne concernent pas la création que Dieu a faite dans un deuxième temps qui était beaucoup plus rapide. En fait, toute contradiction entre la Bible et la science est ainsi aplanie. Alors, cette théorie soulève d'autres difficultés parce que la Bible, nulle part, ne dit que Dieu a fait une première création qui a échoué et qu'il en a fait une deuxième qui a réussi. Ça, c'est un premier problème de cette théorie. Si la chute angélique avait été située ici, donc entre le premier et le deuxième verset de la Genèse, comment expliquer que Dieu a dit que tout ce qu'il avait fait était très bon au verset 31? On est toujours dans Genèse 1, 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Donc on ne comprendrait pas pourquoi Dieu dirait que tout ce qu'il avait fait, c'était très bon, alors qu'il y a déjà eu une chute angélique, qu'il y a eu le chaos sur la terre et que cela a produit un tel désordre. Donc le récit biblique évoque en fait dans le sixième jour comme l'achèvement que Dieu a fait de toute la création, tout ce qu'il avait fait. Donc y compris les anges, tout ce qu'il avait fait, c'était très bon. Par exemple, dans Genèse chapitre 2, verset 1, « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. » Toute leur armée peut ici désigner les êtres célestes, les anges. Donc on ne voit pas ici un rétablissement d'un échec, mais on voit une création qui est bonne. Et on voit la toute-puissance de Dieu créatrice. Maintenant, la question qu'on peut se poser, mais alors où situer la chute de Lucifer? Effectivement, la chute de cet ange, hein, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, Dieu a créé les anges. Parmi les anges, il y en a un qui était un chérubin. Un chérubin, c'est un ange donc élevé dans la hiérarchie angélique. Et ce chérubin a voulu se faire l'égal de Dieu. Et il est appelé porteur de lumière. C'est aussi traduit Lucifer dans la version Vulgate. C'est pour ça qu'on lui a donné ce nom, Lucifer. Mais Lucifer, c'est le nom de Satan avant sa chute. Et lorsque ce chérubin protecteur, donc, était, la Bible décrit comme d'une grande beauté, il a eu l'orgueil au point de vouloir se faire l'égal de Dieu. Dieu l'a destitué, l'a fait chuter. Donc il y a eu réellement une chute angélique. Et dans Genèse 3, verset 1, on voit que le serpent était le plus rusé des animaux et qu'il va être un instrument du diable. Donc forcément, la chute a lieu avant Genèse 3. Ça, c'est sûr. Maintenant, elle doit avoir lieu après Genèse chapitre 1 et verset 31 parce que ce texte dit à ce moment-là, tout ce que Dieu avait fait était très bon. Donc, il n'y a pas de raison de penser que la chute a eu lieu en Genèse 1, verset 1, et entre les deux versets de 1 et verset 2, mais elle a plutôt eu lieu après le verset 31, car on sait que les anges, par Job, on sait que les anges ont été créés avant la création matérielle. Dieu a commencé par créer les anges. Un texte de Job dit que les fils de Dieu, c'est-à-dire les anges, ils poussaient des cris de joie lorsque Dieu a créé les cieux et la terre. Donc, on a une certitude, c'est que Dieu a d'abord créé les anges. Ensuite, il a créé les cieux et la terre. Ensuite est arrivée la chute, qui a lieu très certainement après Genèse chapitre 1, verset 31. Jusque-là, tout ce que Dieu a fait était très bon. Et avant Genèse 3, 1, où le diable est en train d'agir par le serpent. Voilà où se situe la chute donc de Lucifer, qui est devenu Satan et qui va maintenant agir au niveau du jardin d'Éden. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là ou ça va? J'ai déjà vu les deux premières interprétations de notre texte. L'interprétation littérale, on prend le texte comme il est, c'est 6 jours de 24 heures. Deuxième interprétation, la restitution. Dieu a fait une première création qui s'est soldé par un échec à cause de la chute de Satan, qui a créé le chaos sur la terre, et Dieu a recréé les choses correctement en 6 jours. On va voir une autre interprétation, mais est-ce qu'il y a une question déjà ? Oui ? Prends le micro, vas-y.
Tout à l'heure, on a parlé des deux récits de la création.
Oui.
Mais il me semble que dans l'un, la végétation est créée avant l'homme, et dans l'un, la végétation est créée après l'homme.
Tout à fait.
Et comment ça se fait, en fait ?
Alors, effectivement, dans l'un, elle est créée avant, c'est le récit, donc le premier.
Oui.
Comment expliquer cette différence ? Alors, ce que j'ai expliqué, c'est que le deuxième récit est localisé en Éden. Donc, il ne concerne pas la création générale. On va dire que dans l'Éden, il y a eu un ordre différent de la création générale. Mais dans la création générale, l'ordre il est respecté, c'est-à-dire que la végétation était créée en premier et l'homme est venu en deuxième. Sauf que dans le jardin d'Éden, il y a un... Vous voyez, c'est marqué au verset 8, hein, « L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden ». Dans cette localisation-là, il y a eu un ordre différent. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est de le traduire au plus que parfait, comme on l'a fait pour, par exemple, la semeur l'a fait tout à l'heure. Dieu avait créé les animaux. Il l'avait déjà fait, mais ça vient dans un deuxième temps. Pareil pour la végétation. Il peut être traduit au plus que parfait, dans le sens que Dieu avait fait pousser du sol les végétations. En fait, les deux textes sont complémentaires. L'un est plus localisé à Éden. Alors, est-ce que les choses ont exactement suivi le grand principe général ou est-ce qu'ils ont été un peu différents ? Mais en tout cas, c'est localisé. Tandis que dans le grand principe général, l'ordre est bien, la végétation vient avant l'homme. Ça, c'est l'ordre, il est respecté. OK ? Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui, une autre, vas-y. Le micro, comme ça, c'est enregistré.
Oui, moi, c'est pour l'explication entre la Genèse 1 et 1-2.
Oui.
Vous disiez qu'il serait écoulé une certaine période.
On situe les 4 milliards d'années ici.
Voilà, qui expliquerait aussi l'époque glaciaire
tout
des dinosaures. Et dans l'explication du deuxième cas où la chute de Satan se trouverait entre le chapitre 1 et le chapitre 3, alors,
oui.
Il y aurait toujours cette époque glaciaire qui serait valide ou...
De toute façon, oui, elle existe scientifiquement, donc je pense qu'on ne peut pas la rejeter.
Donc elle se situe bien entre Genèse 1.1 et 1.2.
Alors, pas nécessairement, elle peut être située, en fait, autant... En fait, on va voir que les jours peuvent représenter des périodes indéterminées. Et donc, elle se situe dans les jours de la création. On n'est pas nécessairement obligé de la situer, en fait, à un endroit particulier entre tel et tel verset, mais de considérer que Dieu a parlé de périodes, de jours-périodes.
Et Adam, il aurait connu ces dinosaures ou...
Nécessairement pas si les jours durent en fait plus que des milliers, plus qu'une journée de 24 heures, nécessairement il n'a pas connu les dinosaures. Les dinosaures, on va les situer nécessairement avec la création des animaux, donc au sixième jour. Mais ce sixième jour, c'est un jour période aussi. C'est un jour de plusieurs, on peut l'étendre à plusieurs milliers d'années. Donc il n'y a pas de nécessité qu'Adam ait connu les dinosaures. Quoique ceux qui sont fermes avec une vision littérale de la Bible disent qu'Adam à côtoyer les dinosaures. Oui. Il y en a qui le pensent. Personnellement, je ne le pense pas, mais il y en a qui le pensent.
Après, il y a le problème des géants, des Nephtalins et tout.
Les géants qui viennent plus tard,
oui.
Dans Genèse chapitre 6. Alors, Genèse chapitre 6, vous avez un passage qui dit que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Verset 4, les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et leur donnaient des enfants. Ce sont les héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Alors, qui sont ces fils de Dieu ? Ça, c'est une grande question. Est-ce que c'était des descendants des fils de Dieu, c'est-à-dire des descendants de Seth ? Ou est-ce que c'était... des fils de Dieu, c'est-à-dire des gens très élevés comme des rois, comme des princes, ou est-ce que c'était des anges déchus ? Car l'expression « les fils de Dieu », en général, est pratiquement en fait partout dans la Bible, quand il est question, je parle bien de cette expression, pas les enfants de Dieu ou d'autres expressions assez similaires, mais les fils de Dieu, c'est toujours associé à des anges. Il y a d'autres passages qui parlent des fils de Dieu avec la même expression, c'est associé à des anges. Donc, il serait plus probable que ces fils de Dieu ne soient pas ni la descendance de Seth. Pourquoi ? Parce que les fils de Dieu, si vous regardez au verset 2, ils sont mis en contraste avec les filles des hommes. Il y a un contraste entre les fils de Dieu d'un côté et les filles des hommes de l'autre. Donc, deux modes différents. Les fils de Dieu font donc plutôt référence à des anges qui seraient déchus, qui auraient, par le moyen de la possession, utilisé d'autres hommes pour avoir des enfants qui seraient devenus donc ces géants de l'Antiquité. Voilà comment on peut comprendre ce texte, plutôt que de penser que c'était la descendance, non pas de Seth, pardon, mais de attendez. Je ne pense pas que c'est celle de Seth, mais c'est plutôt celle de Caïn. Oui. Alors les fils de Dieu, ça serait de Seth. Ah oui, alors je confonds. Donc les filles des hommes, ça serait de Caïn, c'est ça ?
Les filles des hommes, oui.
Les filles des hommes et les fils de Dieu, ça serait descendants de Seth. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est une théorie. C'est une théorie qui est assez, j'allais dire, rationaliste. Parce que quand on est avec un texte comme ça, on est face à une difficulté. Car comment imaginer que des anges ont pu avoir des relations avec des êtres humains ? Car Jésus dit que les anges n'ont pas de relations comme nous en avons. Donc effectivement, c'est problématique. Néanmoins, l'expression « fils de Dieu » est utilisé dans la Bible, d'une manière générale, pour désigner les anges. Donc, le sens le plus simple, c'est celui-ci. Or, comme les anges ne peuvent pas avoir des relations avec les femmes directement, ils peuvent, par le moyen de la possession, en avoir. Ce qui pourrait expliquer ces géants. Parce que comment on peut expliquer l'apparition des géants si c'est tout simplement des hommes avec des femmes, naturellement ? Pourquoi il y aurait eu des géants ? On n'arrive pas à expliquer donc, cette bizarrerie qui est arrivée suite à cet événement. Donc, si on considère que c'est vraiment des anges déchus, bien, on peut comprendre qu'ils ont communiqué une certaine puissance mauvaise et que ça aboutit à des êtres pas tout à fait normaux, mais en tout cas géants d'une manière tout à fait surprenante. C'est plus étonnant. Bon, le texte, il me semble qu'il va plus dans ce sens-là. Maintenant, vous voyez qu'il y a plusieurs interprétations possibles à ce passage. C'est un des passages les plus difficiles de l'Ancien Testament, ces fameux anges, ces fils de Dieu, qui sont-ils ? Donc voilà les arguments qui penchent plus en faveur des anges déchus. C'est l'expression fils de Dieu en elle-même qui désigne généralement des anges. C'est le fait qu'on les oppose aux filles des hommes. Donc filles des hommes d'un côté, fils de Dieu de l'autre côté. Et puis les géants qui apparaissent, des manifestations tout à fait hors du commun, qui ne seraient pas un engendrement classique. Un quatrième argument qui va dans ce sens, c'est aussi la tradition juive qui, dans le livre d'Enoch, mentionne cet événement et là, sans faire de contour, elle mentionne que c'était des anges qui sont venus vers les hommes et qui leur ont même enseigné l'enchantement, la magie, etc., et que c'est comme ça qu'ils ont réussi à avoir ces géants. Bon, ce n'est pas dans la Bible, c'est des traditions, mais néanmoins, c'est l'interprétation, la compréhension qu'ont eu les Juifs d'une époque reculée de ce texte. Il semble que pour eux, c'était plus le sens. Bon. Après, les chrétiens sont venus, ils ont trouvé que c'était un petit peu irréaliste, cette histoire d'ange déchu, alors ils ont essayé de trouver des explications. Les descendants donc de Seth seraient les fils des hommes. Les filles les fils de Dieu, ça serait les descendants de Seth, et les filles des hommes, les descendants de la race rebelle, la race de Caïn. Bon, mais là, on est plus parce qu'on cherche à trouver une solution qui est un petit peu raisonnable. C'est pour ça que je penche plutôt pour la première. Mais après, ça se discute, je comprends. Est-ce que vous avez encore une question ? Parce que là, on a un petit peu fait une parenthèse par rapport à ce texte.
Quand tu parles des héros de l'Antiquité.
Oui. Alors, qui sont ces héros de l'Antiquité ? Alors, c'était des hommes forts, des hommes vaillants, le texte dit. Quand c'est traduit héros, L'hébreu, c'est homme fort. Comment expliquer cette force ? Bien, moi, je rejoins l'interprétation que je vous propose, c'est-à-dire que cette force n'était pas naturelle, mais surnaturelle. Elle était donnée, en fait, par des mauvais esprits, car les anges, d'une manière générale, sont des esprits, mais eux, ils ont fait le choix de... Donc, ces mauvais anges, c'était quand même des fils de Dieu, dans le sens où c'était des créatures de Dieu. Les anges sont appelés les fils de Dieu d'une manière générale, mais certains sont bons et d'autres sont mauvais. Et ces mauvais anges, donc, auraient communiqué, contracté une force tout à fait exceptionnelle à ces héros de l'Antiquité ou ces hommes forts de l'Antiquité qui avaient une force non pas naturelle, mais surnaturelle, hors du commun. En fait, si les mauvais esprits leur communiquaient cette force, on peut le comprendre.
Et est-ce qu'il peut y avoir un lien avec la mythologie grecque ou romaine ?
Alors, certains ont fait ce lien, effectivement, bien que la mythologie grecque, c'est vraiment de l'imagination. Est-ce que c'est fondé sur des faits réels, la mythologie, ou est-ce que c'est fondé sur de l'imagination de ce qu'a pu être l'Antiquité ? C'est pour ça que certains ont fait le rapprochement, effectivement, en disant que ces héros correspondraient à la mythologie. Oui, mais quand on parle de mythologie, on parle bien de mythe. C'est quelque chose qui est supposé avoir été exister. Donc, tu vois, on est un peu prudent parce que est-ce que ce dont parle la mythologie, c'est quand même des mi-dieux, mi-hommes. Donc, on est dans un peu la fabulation. La Bible est plus réservée là-dessus. Bon, donc, je mettrai la question avec en suspens. Oui, certains l'ont vu. Je dirais qu'il ne faut pas sauter à pieds joints là-dedans. Peut-être considérer que la mythologie a fait sa recherche un peu imaginaire, que quelquefois on trouvera des correspondances, mais en tout cas qu'il y ait eu des hommes forts, d'une force assez surnaturelle, c'est mentionné. Est-ce que c'est ça qui a fait la mythologie ? Là, j'avoue que voilà, je serais prudent. Je ne sais pas.
Des géants, il y en a qui ont parlé.
Vas-y.
Dans le pays de Canaan. Oui, quand Moïse a envoyé les espions dans le pays de Canaan, ils ont vu aussi des géants.
Oui, tout à fait. Alors, les géants, effectivement, ce n'est pas propre à cette époque, mais je pense qu'on ne parle pas tout à fait de même type de géants. Car des gens grands, ce sont des géants pour les Hébreux. Par exemple, Goliath, il était très grand, c'était un géant. Mais les géants dont il est question ici, c'était des gens très grands et très forts, mais d'une force tout à fait surnaturelle, plus que Goliath, on peut dire. Donc, il y a des géants qui sont dans le sens normal, des personnes très grandes et très fortes, ça a toujours existé, des géants. Mais là, c'est quand même des géants qui sont particuliers. Et en plus, tout ça a lieu avant le déluge. Donc tout ça, ça a été complètement détruit, balayé, ça a disparu. Vous voyez, on est quand même dans un cadre particulier. Une autre question ? Oui ? Vas-y, prends le micro.
Du coup, tu as dit qu'il y avait des bons et des mauvais anges.
Exact.
Ça veut dire que le mal existait avant le péché de l'homme.
Tout à fait.
D'accord.
On peut le dire comme ça. On peut le dire comme ça. Le mal a existé avant le péché de l'homme, car le péché a commencé au ciel.
D'accord.
Le péché a commencé au ciel, car avant la chute dans Genèse 3, donc on revient à Genèse 3, avant Genèse 3, le serpent... Le plus rusé des animaux, c'est l'instrument que Satan va utiliser pour tenter Ève. Donc forcément que Satan a déjà chuté à ce moment-là. Donc effectivement, le péché n'a pas commencé en Genèse 3 avec Adam et Ève, Ève qui a été séduite. Le péché a existé dans le ciel au moment où Lucifer a voulu se faire l'égal de Dieu. Et les anges ont eu ce qu'on appelle le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est la faculté de choisir ou de rejeter Dieu. Les anges ont eu le libre arbitre. Certains ont choisi de suivre Satan dans sa chute, d'autres ont choisi de rester avec Dieu. On ne sait pas la proportion exacte, mais il y a quand même une certaine proportion d'anges qui ont suivi Satan. C'est ce qu'on appelle les mauvais esprits, les démons, les anges déchus. Donc, dans de ce côté-là, on peut dire que la chute angélique, moi je la situe entre Genèse chapitre 1, verset 31 et Genèse 3. À quel moment elle a eu lieu, la Bible ne dit pas. Mais elle dit dans les prophètes, que ce soit Ésaïe ou Ézéchiel, il y a deux textes, Ésaïe 14, Ézéchiel 28, qui nous parlent de la chute de Lucifer. Et qui décrivent bien que Lucifer était un ange parfait, qu'il était saint, qu'il était pur, donc une vraie créature de Dieu sans problème, mais qu'il a, par orgueil, voulu se faire l'égal de Dieu, et il a été destitué. Donc il est devenu Satan. Oui, une question. Il y avait aussi une question là, mais...
J'ai une question qui me turlupine quand il s'agit de Lucifer.
Oui.
Par exemple, on a lu dans la Bible que Lucifer, il avait cet orgueil, oui. Il voulait être égal à Dieu. Mais d'où vient cet orgueil? D'où vient cet esprit d'orgueil? Et cela veut-il dire que Lucifer connaissait le bien et le mal? Oui. D'où vient cet esprit d'orgueil?
Alors, d'abord, Dieu n'a pas créé Lucifer avec l'orgueil. D'où vient cet esprit d'orgueil? C'est que Dieu a créé les anges avec un libre arbitre, c'est-à-dire Dieu veut être aimé par amour, librement, y compris pour les anges. Pour nous, c'est pareil. On a la faculté d'accepter de croire ou de ne pas croire. Pour les anges, donc, il a exercé cette faculté, et comme il avait cette liberté, il l'a utilisée, mais pour le mal. Donc, en fait, Dieu n'a pas créé le mal, mais il a créé la liberté. La liberté, c'est la possibilité de choisir le bien ou le mal. Ça va être pareil avec l'homme. L'être humain va avoir le choix entre le bien et le mal. L'exercice du libre arbitre. Les anges, donc, ont chuté. D'où vient l'orgueil? Eh bien, c'est simplement qu'il a voulu recevoir l'adoration qui revient à Dieu. Ça lui est monté à la tête. Il était le plus bel ange de la création, hein, Lucifer. Il est décrit comme couvert de pierres précieuses. Il y a une lumière qui émanait de lui. Eh bien, ça a été malheureusement pour lui une cause de chute. Il a gardé quelque chose de cette beauté parce qu'il est dit que Satan se déguise en ange de lumière. Donc il aime se faire passer pour ce qu'il n'est plus. Il était l'ange de lumière, il est devenu l'ange de ténèbres, si on peut dire. Et donc, mais quand il vient se présenter, il ne vient pas sous son jour de Satan, il vient sous le jour d'un ange de lumière. Mais derrière, c'est Satan. Alors, d'où vient l'orgueil? Eh bien, ça vient du libre arbitre, la liberté de choix que Dieu a donné aux anges, comme à nous. Comme à Adam et Ève, il leur a donné la liberté de choix. Et ils ont choisi de pécher, de désobéir. Par contre, la différence, c'est que les anges, une fois qu'ils ont désobéi, il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de retour possible. C'est-à-dire que la sanction a été immédiate, ils ont été jugés et condamnés. Tandis que pour les hommes, il y a toujours la grâce et le pardon. C'est la grande différence entre les anges et nous. Dieu ne fera pas grâce à Satan ni à ses démons. Eux, ils sont déjà jugés, condamnés. Ils finiront dans les temps de feu, quoi qu'il arrive.
Voilà. J'ai une autre petite question. C'est dans Genèse 4.
Oui.
Nous savons qu'après la chute d'Adam et Ève, disons que d'après la Bible, ils étaient les deux sur la terre.
Oui.
Parce que d'après la Bible, nous ne savons pas s'il y avait d'autres êtres humains sur la terre. Bon. Dans Genèse 4, verset 16, après que Caïn ait tué son frère Abel par jalousie, il s'est dit que, bien sûr, l'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. C'est verset 15. Mais dans verset 17, c'est dit, Caïn connut sa femme.
Tout à fait.
Mais Caïn connut sa femme, oui. Elle vient d'où, cette femme?
C'est une bonne question. J'avais un point pour parler de ce sujet, mais on peut le devancer. Effectivement, d'où vient la femme de Caïn? Bien nécessairement, il n'y a pas d'autre solution. C'est dit que Caïn, plutôt que Adam et Ève, ils eurent des fils et des filles. Donc forcément, elle est liée à ça. Néanmoins, nous, quand on lit la Bible, on ne voit pas le temps qui passe d'un verset à l'autre. On imagine, quand on lit le récit, que les choses s'enchaînent à la vitesse où on vit nous. Mais en réalité, entre deux versets, il peut y avoir des années qui s'écoulent, entre le verset 16 et le verset 17, par exemple. Donc la Bible, elle fait un concentré, mais nous ne pouvons pas ignorer qu'il y a du temps qui passe. Et donc, s'il y a eu des fils et des filles, on ne sait pas combien, mais ça peut être en très grande quantité. La Bible ne nous dit pas tout. Et déjà, il y a eu des premières mariages qui se sont faits, en fait, dans la même famille au début. Ça a été, il n'y avait pas d'autre solution. Et petit à petit, les peuples se sont étendus. Donc sa femme, effectivement, ça ne peut être qu'une descendante d'Adam et Ève, c'est-à-dire une sœur de Caïn. Mais j'allais vous dire, quand vous lisez la Bible, ne lisez pas cela comme si tout était concentré dans le même temps. Entre deux versets, il y a parfois 30, 40 ans qui peuvent s'écouler, vous comprenez ? Sinon, effectivement, on aurait l'impression que tout d'un coup, la femme surgit. Mais en réalité, les choses se sont faites dans le temps. Voilà. Il faut intégrer cette notion. Il y avait une question par là ? Oui ? Le micro ?
Que veut dire antiquité ? Alors, à quoi ça correspond ?
Oui, l'antiquité, c'est l'histoire ancienne avant le... avant l'écriture et l'époque plus récente où on a des éléments. Donc l'Antiquité, c'est l'histoire ancienne, c'est de l'histoire très ancienne, on pourrait dire.
Pour les historiens, l'Antiquité, ça va jusqu'au 5e siècle, après Jésus-Christ, par exemple.
Ah oui. Alors là, d'accord. Alors effectivement, si on parle de l'Antiquité dans ce sens-là, alors moi, je la prends plus dans le sens d'une Antiquité beaucoup plus lointaine. Voilà.
Avant le déluge.
Oui, elle correspond à cette période avant le déluge jusqu'à, effectivement, l'époque plus récente, on va dire, jusqu'à Moïse à peu près, jusqu'à Abraham, Moïse, dans ces eaux-là. Parce qu'après, on arrive avec l'écriture. Bon. Alors, effectivement, dans l'histoire, l'Antiquité va beaucoup plus loin. Mais on pourrait la situer... est-ce que c'est mentionné, l'Antiquité, ici ? C'est Genèse 6. Comment ils disent ? Je crois qu'ils disent autrefois. Ils ne parlent pas d'antiquité. Ils parlent de ces temps-là, les temps anciens, assis dans l'antiquité. Alors, effectivement, la traduction du mot antiquité, ça n'a pas forcément la référence à l'antiquité dont vous parlez. C'est plus des temps plus reculés, à mon avis. Et c'est pour ça que c'est un mot un peu piégé, là, ouais. Alors, il y avait une autre question au fond.
Oui, je voudrais revenir sur la notion de libre arbitre des oui. anges.
Oui.
Libre arbitre, ça signifie la liberté de choix.
Oui.
Donc, ça pourrait vouloir signifier que Dieu, en fait, avait créé le bien et le mal. Donc, ça met un peu mal à l'aise.
Je pense pas qu'on peut dire ça. Parce que la Bible ne dit pas que Dieu a créé le bien et le mal, hein, n'est-ce pas ?
Voilà.
Mais que Dieu ait créé la possibilité. C'est-à-dire que pour qu'il y ait liberté, il faut nécessairement qu'il y ait possibilité. Qu'il y ait un choix possible entre deux entités. Que Dieu ait créé la liberté, ça ne signifie pas que Dieu a créé le mal, mais le mal est venu du fait de la désobéissance. Donc je ne pense pas qu'on puisse dire que Dieu a créé le mal, par exemple. Mais que Dieu a créé la liberté ou la possibilité, oui, la possibilité de désobéir. Mais Dieu n'a pas créé la désobéissance.
Hein ? Ça laisse perplexe.
Ah mais c'est différent. C'est différent de dire que Dieu a créé le mal ou Dieu a créé la possibilité de désobéir. Ou a donné la possibilité d'obéir ou de désobéir. C'est deux choses différentes. La possibilité de l'aimer. Mais si quelqu'un ne l'aime pas, il avait aussi cette possibilité. Et c'est là que le mal surgit. Le mal n'a pas été créé par Dieu. Le mal a surgi par défaut. Parce que Dieu est positif, mais en retour du positif, il y a le négatif. Le négatif, en fait, c'est fait comme par une ombre. On peut dire qu'elle a surgi à cause du défaut de la désobéissance. Si, en fait, les anges avaient obéi, si Adam et Ève avaient obéi, il n'y aurait pas eu le péché. Donc, le péché n'est pas une création de Dieu. Le péché, c'est une conséquence d'une faute, d'une désobéissance, d'un mauvais choix. On pourrait dire comme ça. Oui ?
Pour rester toujours sur les mêmes questions, mais malgré tout, il a planté dans le jardin l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Oui. Alors là, c'est tout à fait pour signifier le libre arbitre. La connaissance du bien et du mal, ce n'est pas le mal. C'est la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire c'est un arbre imagé pour montrer qu'il avait nécessité de choisir entre le bien et le mal. Bien que le mal était théorique, le mal n'existait pas, mais il savait que s'il désobéissait, ça serait mal. Voilà. C'est-à-dire que cet arbre du bien et du mal est une image, une parabole pour nous qui nous montre que c'était comme si Dieu lui disait, si tu obéis bien, si tu obéis à ma parole, eh bien ça sera le bien, mais si tu désobéis, ça sera le mal. Mais sauf qu'Adam ne savait pas ce qu'était le mal. Il l'a su en désobéissant. Donc l'arbre du bien et du mal, c'était plutôt comme si Dieu lui disait « Fais le bien, mais ne fais pas le mal. Obéis à ma parole. Voilà. » Ça ne veut pas dire que le mal existait à ce moment-là. Ou que Dieu a créé le mal, non. Ce n'est pas le sens de ce passage. Bien. Alors on va pouvoir revenir à notre interprétation. On était au troisième, je ne sais pas si... Voilà. On est à l'interprétation concordiste, on avance. Cette interprétation s'efforce de faire concorder le texte avec les découvertes scientifiques. On l'appelle l'interprétation concordiste. Les jours ne sont pas pris au sens littéral, mais correspondent à des périodes. Alors, c'est la traduction du mot jour. Alors, ici, vous avez yom en hébreu, hein, Y-O-M, c'est traduit par jour en français. Et en hébreu, le mot jour peut signifier aussi une période indéterminée. On va lire le psaume 90, verset 4. Alors peut-être on va changer de lecteur, si tu veux lire, Laurence. Ouais. Psaume 90, verset 4.
Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit.
Alors, c'est un texte qui nous montre que, pour Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans. 1000 ans, c'est comme un jour. Il n'y a pas de problème de temps, en fait, pour Dieu. Donc vous voyez que le jour qui pour nous dure 24 heures, 1000 ans, c'est comme un jour pour Dieu. Donc déjà, on peut comprendre que ce mot jour en lui-même, pour Dieu, il peut contenir plus que 24 heures. Il peut contenir 1000 ans. Dans le récit de la Genèse, ici, alors on va lire Genèse chapitre 2, verset 4, parce que c'est important de voir qu'est-ce que le mot jour signifie dans le contexte de notre passage, et on est toujours dans Genèse 2, au verset 4. Et ici, le mot jour désigne les 6 premiers jours de la création. Alors vas-y, tu peux le lire.
Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol.
Merci. Mais on va s'arrêter là. En fait, c'est le verset 4, mais il est traduit ici dans la version seconde. Voici l'origine des cieux et de la terre quand ils furent créés. Voilà, c'est la traduction que vous avez. La traduction littérale, vous l'avez dans la version Darby. Ce sont ici les générations des cieux et de la terre. Voilà ce que dit le texte, donc. Hébreu. Lorsqu'il fut créé, au jour que Dieu fit les cieux et la terre. Au jour que Dieu fit les cieux et la terre. Au lieu de quand ils furent créés. Littéralement, c'est yom. Au jour que Dieu fit les cieux et la terre. Et le mot jour reprend en fait la totalité des 6 jours de la création. Donc le même mot, dans le même passage, signifie une succession de 6 jours. Mais là, il prend le mot jour pour désigner la période totale, comme si la création avait eu lieu en un jour, au jour, ou une période, on pourrait dire, une période, dans la période où Dieu fit les cieux et la terre. Vous trouverez ça dans la version Darby. Darby, qui est une traduction très littérale de l'hébreu, et qui laisse apparaître que le mot jour n'est pas dans notre traduction, parce que les traducteurs ont considéré que ça signifiait que les cieux et la terre furent créés d'une manière générale, mais littéralement, au jour où Dieu fit les cieux et la terre. Donc, premier élément. Maintenant, on va lire dans Nombre chapitre 3, verset 1, un deuxième exemple où le mot jour, ici, désigne en fait une période de 40 jours cette fois-ci. Nombre 3, 1. Alors pareil, ça ne va peut-être pas apparaître dans la traduction seconde, mais on va la lire.
Voici la postérité d'Aaron et de Moïse au temps où l'Éternel parla à Moïse sur la montagne du Sinaï.
Voilà, au temps. C'est traduit comme ça dans votre version. Au temps où l'Éternel. Mais le mot temps ici, c'est le mot jour. Au jour où l'Éternel parla. Et ce jour-là, en question, il a duré 40 jours. 40 jours où Moïse était sur la montagne du Sinaï. Et pourtant, c'est résumé dans un seul jour. En réalité, ce mot jour, vous voyez qu'il est beaucoup plus souple que de dire c'est 24 heures, parce que Moïse n'est pas resté 24 heures, il est resté une période de temps, on sait qu'on peut l'estimer à 40 jours, parce que la Bible le dit, mais elle n'a pas duré 24 heures seulement. Ce mot est d'ailleurs utilisé dans d'autres passages, comme le jour du malheur, dans Deutéronome 32, verset 35, le jour de l'Éternel, Joël chapitre 1, verset 15, le jour du salut, 2 Corinthiens 6, 2, etc., pour montrer que c'est un jour indéterminé. Ce n'est pas un jour de 24 heures, mais c'est une période. Je vous donne un dernier exemple. Genèse chapitre 26, verset 8, pour vous montrer encore cela. Genèse 26, 8, on est toujours sur le mot jour, yom, qui signifie plus que 24 heures.
Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimélec, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme.
Merci. Et là, vous avez la traduction « comme son séjour ». Mais en hébreu, c'est marqué « comme son jour se prolongeait ». Et le texte lui-même dit que ce jour se prolongeait, et donc ça évoque un séjour. C'est pourquoi c'est traduit « séjour ». Mais le même mot peut évoquer « jour », peut évoquer aussi « un jour indéterminé », peut-être plusieurs jours, peut-être un mois, peut-être deux mois, mais c'est le même mot. Et d'où la question de l'interprétation du mot « jour » dans le texte de Genèse 1. Les six jours donc de la création, plutôt le sixième jour, comprend tellement d'éléments qu'il a nécessairement dû durer plus que 24 heures, puisqu'il y a les animaux, l'homme, la femme, les consignes pour garder le jardin, le temps nécessaire pour donner un nom aux animaux, etc. Le septième jour, lui, est ouvert. Le septième jour ne se termine pas par l'expression « il y eut un soir et il y eut un matin » comme les six jours précédents, mais par contre, c'est un jour du repos de Dieu. Et c'est une perspective, en fait, qui va durer, on va dire, pas 24 heures, mais indéterminée, indéfinie. Si, en fait, nécessairement, on est dans le septième jour, c'est-à-dire que le jour du repos de Dieu, ce n'est pas un jour où Dieu est inactif, c'est un jour où Dieu se repose de sa création, et nous sommes invités à rentrer dans le repos de Dieu. Donc Dieu se repose, c'est le septième jour, mais on peut dire que le septième jour, on est dans le septième jour, en fait. Spirituellement, on est dans ce septième jour, c'est le jour du repos de Dieu. Dieu se repose de ses œuvres, de sa création. Si ce septième jour a duré plusieurs milliers d'années, eh bien, les premiers jours ont pu être beaucoup plus longs que des jours de 24 heures aussi. Donc nécessairement, on comprend que l'expression « jour » ne signifie pas 24 heures à chaque fois, mais qu'elle est plus souple. Alors, que répondre à cette interprétation ? Bien, c'est vrai que l'expression « soir et matin » pencherait plutôt pour un jour classique. Mais enfin, « soir et matin », c'est la fin d'une période et le début d'une nouvelle période aussi. La possibilité de période indéterminée n'est donc pas exclue. Peut-être un peu moins probable que les jours classiques. L'ordre des apparitions des éléments aussi ne correspondent pas tout à fait à ce que la science dit. Par exemple, dans la Genèse, les oiseaux interviennent au cinquième jour avant les insectes et les reptiles au jour suivant. Or, les savants pensent le contraire. Donc, on peut dire que dans les grandes lignes, ça suit l'interprétation, disons, de la science, on s'y retrouve, mais dans le détail, il y a des différences. La plus grande différence, c'est effectivement le soleil à partir du verset 14, qui est créé au quatrième jour, soit des millions d'années après la lumière, ce qui est problématique par rapport aux scientifiques, à moins de croire que Dieu avait créé un prémisse de soleil avant de faire apparaître le soleil complet, auquel cas ça peut coller. Les concordistes, en tout cas, sont contraints de croire que Dieu avait créé déjà le soleil avant qu'il apparaisse au verset 14, parce que sinon ça ne colle pas avec la science, ce que dit la science de la création. Ils pensent que Dieu aurait utilisé une sorte de prémisse de soleil, peut-être qu'il aurait finalement rendu visible ou achevé au quatrième jour. Mais c'est des suppositions, on est plus dans l'interprétation, dans la réflexion. Autre possibilité, voyez le verset 16, « Dieu fit les deux grands luminaires », c'est ceux qui traduisent au plus que parfait, en disant « Dieu avait fait les deux grands luminaires », donc sous-entendu, ils existaient déjà, mais ils apparaissent seulement au quatrième jour. Alors, ce n'est pas complètement impossible, on l'a vu, hein, mais cette interprétation aussi a ses difficultés. Voilà, ça c'est l'interprétation concordiste. Donc, l'idée c'est, la science dit des millions d'années, alors on retrouve dans les jours, eh bien, des millions d'années pour le premier jour, des millions pour le deuxième, des millions, etc. Et on arrive à retrouver grosso modo les aires glaciaires et toutes ces choses dans cette succession de périodes. On parlera de jours-périodes de millions d'années où on retrouvera tous les dinosaures et toutes ces choses-là. La dernière interprétation, c'est celle qui me paraît, enfin moi, que je préconise. Est-ce que tu peux cliquer ? C'est l'interprétation littéraire. L'interprétation littéraire, on appelle aussi théorie du cadre. Le récit de la création n'est pas une description scientifique à la manière où on comprend la science aujourd'hui, ou chronologique des événements, mais essentiellement, comme toute la Bible, c'est un texte spirituel qui nous parle de Dieu. Et remarquez la structure, elle n'est pas prise au hasard. 6 plus 1, ce qui représente la semaine que nous connaissons de 6 jours de travail plus un jour de repos. Tout cela n'est pas le fait du hasard. Il y a une structure, en fait, qui est littéraire dans le récit de la création, qui sous-tend la création. On voit que le septième jour, c'est le point culminant, mais c'est le sabbat. Ça va devenir pour le peuple juif le jour du repos. Déjà, alors est-ce qu'on peut mettre l'image suivante ? Saint Augustin, au 5e siècle, défendait déjà une position assez similaire. Lui, il croyait, en fait, en se basant sur le verset que j'ai lu tout à l'heure, Genèse 2,4, les cieux et la terre, en fait, au jour où ils furent créés, à partir de ce texte, il croyait que Dieu avait tout fait, lui, en un seul jour, et que ce n'était pas nécessaire qu'il y ait des jours... Il croyait plus en une création, en fait, instantanée de l'ensemble. Et il expliquait que les 3 premiers jours ont en germe les 3 jours suivants. Donc, quel est le but, en fait, poursuivi par Moïse dans cette présentation des 6 jours ? On sait que Moïse est inspiré par le Saint-Esprit lorsqu'il écrit ce texte. D'abord, son premier but, c'est de montrer que Dieu est le créateur de toutes choses. Dieu est le créateur, ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est l'institution de la semaine, 6 jours de travail, 1 jour de repos. On va peut-être mettre la citation suivante. C'est Henri Blocher, qui est un théologien actuel. Voilà ce qu'il explique. L'auteur, donc, le but, ce n'est pas de nous livrer une chronologie originelle. Il se peut que l'ordre logique choisi coïncide grosso modo avec les successions effectives par la science. Mais ce n'est pas ça ce qui l'intéresse. Il veut mettre en valeur une théologie du sabbat. Donc le récit n'est pas scientifique à première vue, mais il est théologique, il est spirituel et il enseigne quelque chose. Il enseigne quoi ? Eh bien, il y aura 7 jours pour travailler et il y aura 1 jour à mettre à part pour le repos. Ça va devenir le sabbat, ça va devenir le jour réservé à Dieu. Voilà la présentation. Alors peut-être on va faire une pause, parce que je vois qu'il est déjà 15h, on va faire une pause de 10 minutes et on va reprendre à 15h10 et on va revenir en détail sur cette dernière interprétation. Je n'ai pas fini la présentation de cette interprétation, mais faisons la pause, la coupure. 10 minutes.